10h42 minutes au Lambert Café. J'accueille avec grand plaisir Hugo Auriot. Bonjour Hugo.
Bonjour.
Vous allez nous parler de votre livre qui, je pense, est tout chaud, Carnet d'un imposteur, mais tout juste avant, j'aimerais ça revenir sur le premier livre que vous avez écrit, L'Empereur, c'est moi, consacré à vos années enfermées dans l'autisme. Comment vous êtes parvenu à vous libérer justement de cette prison intérieure? Comment vous avez fait?
Mais en fait, je suis passé d'une prison à une autre, c'est-à-dire que les signes visibles de l'autisme me rendaient évidemment victime de beaucoup de stigmatisation de la part des autres.
Okay.
Et petit à petit, à force, je me suis enfermé dans une prison, on va dire, de conformité. C'est-à-dire que j'ai joué à être une marionnette absolument normale, et ça, c'est ce que je raconte dans mon deuxième livre, Carnet d'un imposteur, où je deviens à ce moment-là un comédien tellement adroit pour cacher ma spécificité au monde que lorsque je décide ensuite de réexplorer mes parts d'ombre pour raconter mon histoire, plus personne ne veut me croire.
Oh! Et ce sont vos réflexions sur plein de thèmes que vous nous proposez dans ce carnet d'un imposteur. Imposteur, c'est moi aujourd'hui qui suis l'imposteur parce que je viens de recevoir votre livre tantôt. Alors, j'ai pas eu le temps vraiment de le découvrir, sauf deux ou trois petites réflexions comme Pater ou autre. Alors, parlez-nous justement de ces thèmes que vous avez souhaité exploiter.
Ben, ce sont les thèmes justement de la contrainte de normalité, c'est-à-dire que souvent, c'est là où tout le monde croit que je fais des livres sur l'autisme, sauf qu'en fait finalement c'est plutôt sur la condition humaine en général,
okay.
Et l'autisme est un peu un reflet de ça, peut-être, on va dire, beaucoup plus amplifié, c'est-à-dire que le fait justement de ne pas trouver sa place dans le monde, le fait des fois d'être obligé de mettre des masques, c'est un livre sur les masques, c'est le livre aussi sur la naissance d'un comédien, c'est-à-dire que finalement j'explique pourquoi je suis venu au théâtre et comment le théâtre m'a aussi aiguillé, m'a donné un projet professionnel, m'a permis de trouver aussi une nouvelle famille, vu que j'étais exclu dans dans le monde en général. Le théâtre, les réunions de saltimbanques sont souvent des réunions de personnes qui ont souvent eu des soucis avec la société, des soucis aussi avec la contrainte de normalité. Aussi, on propose une alternative, une autre manière de voir les choses, où notre décalage, du coup, devient une force et nous sert à finalement à raconter le monde, à offrir un miroir déformant pour mettre le monde en face de ses contradictions et de ses paradoxes.
Et justement, dans Pater, la petite réflexion que j'ai eue tantôt, le papa dit « merde » parce qu'il n'y croit pas vraiment à ce métier.
Oui. Puis bon, aussi, c'est un jeu de mots, puisqu'évidemment, ce qu'on dit au théâtre, merde, pour se dire aussi, on ne dit jamais bonne chance au théâtre, ça porte malheur.
Non,
donc,
oui.
on dit merde, voilà.
Oui, c'est ça. Comment être un bon père quand on a détesté être petit? C'est difficile à répondre à ça?
Oui, alors ça, c'est vrai que c'est la paternité, c'est peut-être la chose qui est la plus violente qui me soit arrivée. C'est-à-dire que cela remet tout en question. Moi-même, j'ai détesté être un enfant.
Oui.
Mon fils, lui, est très différent de moi. Il adore être petit, il adore être un enfant. Mmh. Et donc, il me guide en me prenant par la main dans ce monde que moi, je détestais. Et lui, il me fait quelque part revivre mon enfance par procuration, ce qui est très déstabilisant et en même temps très troublant. Mais
heureux ou malheureux?
Heureux, lui il est heureux.
D'accord.
Et moi je suis heureux qu'il soit heureux également.
Mais vous, ce que vous vivez par rapport à ça, est-ce que c'est heureux ou malheureux?
C'est heureux.
Oui, non.
C'est très heureux, mais ce qui n'empêche que c'est très déstabilisant aussi. Mais j'en fais un projet de bonheur, absolument.
Voilà, c'est beau d'entendre ça. Comment composer avec la réalité qu'on ne comprend pas?
Comment on composer avec la réalité qu'on ne comprend pas? Eh bien, des fois, il faut arriver à ne pas hésiter à se dire que des fois, la contrainte de normalité peut être bien plus folle que, la folie n'est pas forcément du côté que l'on croit, comme l'imposture n'est pas forcément du côté que l'on croit. Moi, personnellement, je crois beaucoup plus en un monde qui est, entre les passerelles, entre créer des passerelles, entre les différences de chacun, plutôt que de construire des murs pour enfermer toutes les personnes qui seraient considérées comme déviantes. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on vit dans une époque où l'idiot du village n'est plus en liberté, où on enferme l'idiot, où la position du bouffon du roi devient très difficile à tenir également. On risque de se retrouver dans un monde sans idiot et sans bouffon, ce qui veut dire un monde totalement uniforme, ennuyeux et qui court à sa perte. Et c'est là où les fous et les idiots doivent se lever et résister.
Une dernière phrase qui est forte, tromper les autres pour qu'ils ne vous tuent pas, ainsi va ma vie.
Oui, c'est le jeu des masques. C'est vrai que c'est, mais en effet, ben, beaucoup d'auteurs parlent de cette condition-là. Par exemple, on peut retrouver ça également dans les pièces de Marivaux, qui sont des pièces où ce sont vraiment des jeux de masques, ou dans certaines pièces de Shakespeare aussi. Et on peut le voir aussi tous les jours dans la politique, dans le jeu social, dans la cristallisation optimale du jeu social qui est, ben, finalement aujourd'hui la politique, dans la société du spectacle. On voit bien que c'est un jeu de masque également, un jeu de masque, un jeu de dupes, que tromper les autres pour qu'ils ne vous tuent pas, bah finalement c'est un petit peu, malheureusement, la fable qu'on peut apprendre, la morale que l'on peut se faire quand on traverse une scolarité, comme j'ai pu traverser la mienne, ou quand on observe un peu ses contemporains, le fonctionnement du monde par moment. Et je trouve ça assez urgent de proposer des alternatives.
Vous avez écrit L'Empereur, c'est moi. Vous nous proposez maintenant Carnet d'un imposteur. On dit jamais 203. Est-ce que vous avez eu la piqûre de l'écriture?
Ah oui, l'écriture pour moi c'est le seul endroit, c'est le seul terrain où je trouve une liberté absolue. C'est vrai que je suis épris de liberté et dans tout ce qu'on doit faire dans sa vie, on doit souvent, bah en effet, bon bah négocier avec les contraintes des uns des autres, les contraintes spatio-temporelles, les contraintes de temps surtout. Et l'écriture, eh bien l'écriture, le temps et l'espace sont illimités. Vous pouvez aller où vous voulez. Donc évidemment, oui, l'écriture, j'ai récidivé, je récidiverai encore. J'ai déjà mon troisième livre en préparation et disons que, enfin, je pourrais dire que j'ai 360 projets et que je vais continuer à écrire, oui, bien entendu.
Ça a été très agréable. Un gros merci, Hugo Horiot, et on rappelle que c'est aux éditions de l'Homme. Merci beaucoup.
Merci.
Bye bye.